L'émission Écho de la solidarité internationale, présentée par la Maison des Tiers-Mondes et de la solidarité internationale.
Bonjour à toutes et à tous, c'est aujourd'hui Philippe qui vous rejoint pour recevoir l'association JRS Welcome dans l'Hérault. J'accueille donc Sophie Carner. Bonjour Sophie.
Bonjour.
Et Jacques Maillet. Bonjour Jacques.
Salut Philippe.
Sophie et Jacques sont les coordinateurs de cette association JRS Welcome, dont on vous dira un mot dans quelques instants, dans l'Hérault. Et nous avons pensé qu'à une période où la question migratoire se pose avec acuité, dans un contexte de campagne préélectorale pour l'élection présidentielle dans 3 mois, il était intéressant de revenir avec une association qui s'occupe justement de l'accueil des demandeurs d'asile sur cette problématique de l'accueil des migrants, des réfugiés, des demandeurs d'asile. Et je vais peut-être tout d'abord demander à Sophie et Jacques de nous situer cette problématique dans un cadre un peu plus général, puisque l'on sait qu'ensuite nous reviendrons à ce qui se fait dans l'Hérault et aux actions de JRS Welcome en France.
Alors le droit d'asile, c'est un droit international qui a été discuté lors de la Convention de Genève, il y a déjà pas mal d'années maintenant, et auquel la France a adhéré. Et c'est donc le droit pour des personnes qui fuient leur pays pour différentes raisons, qu'elles soient politiques, que ce soit la guerre, que ce soit des questions liées à des raisons sociales, religieuses, etc. Donc d'aller demander l'asile dans un autre pays. Ce droit d'asile en France, il s'accompagne d'un certain nombre d'accompagnements proposés par l'État, notamment la possibilité d'avoir un logement et la possibilité d'avoir une allocation pour tous les demandeurs d'asile qui viennent pour la première fois en France demander cet asile. Or, cet accompagnement, ces mesures d'accompagnement, elles sont malheureusement insuffisantes. Alors, du fait de l'augmentation du nombre de personnes qui demandent l'asile depuis quelques années, mais également parce que l'État n'a pas suffisamment investi pour accompagner ces demandeurs d'asile. Alors, un exemple très clair, en Occitanie, il y a 8000 places d'accueil, ce qui n'est pas négligeable et qui a été augmenté ces dernières années, mais il y a encore 1500 personnes qui se retrouvent à la rue. Et donc, un des objectifs de JRS, c'est de pouvoir permettre à ces personnes qui sont à la rue d'être accueillies dans des familles pendant un temps délimité, dans des conditions dont on reparlera tout à l'heure, en attente d'avoir un hébergement proposé par l'État. Donc, ce n'est pas faire à la place de l'État, mais c'est donner une période de répit, d'accueil, de constitution de réseau pour toutes ces personnes qui, normalement, devraient être prises en charge par l'État.
Ce qu'on peut peut-être ajouter, c'est que quelqu'un qui pose une demande d'asile en France se voit rentrer dans une procédure qui peut durer de 1 à 2 ans. Et c'est pendant ces années, ces mois d'attente de réponse de l'État suite à une rencontre avec l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, c'est pendant tout ce temps d'attente qui est quand même démesurément long que les personnes devraient être accueillie, c'est l'engagement de l'État, et devrait avoir une petite allocation. L'allocation n'est pas importante, hein, elle est de l'ordre de 400 euros par mois.
Voilà. 200 quand on est logé, oui.
Et 200 quand on est logé. Donc vraiment, il est question là d'un temps d'attente qui est trop long par rapport même aux engagements par rapport à l'Europe. Hein. Et c'est sur cette période d'attente pendant laquelle le demandeur d'asile est une personne parfaitement dans les clous. Hein. Elle a un papier de demandeur d'asile. Elle attend cette réponse de l'État. Et c'est là que l'hébergement fait défaut.
Merci Sophie, Jacques. Nous reviendrons donc sur ces aspects pour voir de plus près ce que vous faites dans l'Hérault pour tenter de remédier à ces carences de l'État, on peut le dire en l'occurrence. Mais je vais d'abord peut-être remonter un peu en amont pour vous demander, en fait, ce service des réfugiés, des jésuites, dont Welcome est un programme, qu'est-ce que c'est au plan international en France et dans l'Hérault?
Alors, c'est d'abord effectivement, Philippe, une organisation internationale, une ONG qui est présente dans les camps de réfugiés un peu partout sur la planète. En France, c'est donc JRS, ça signifie Jésuites Réfugiés Service, hein, dans l'ordre anglais de l'énonciation. En France, cette association, en fait, a pour objectif de lutter contre l'isolement et l'exclusion sociale des demandeurs d'asile et des réfugiés, en favorisant la rencontre avec les nationaux. Et l'objectif est d'accueillir dignement ces personnes qui méritent d'être accueillies dignement pendant ce temps d'attente et développer chez les Français une culture de l'accueil. L'association est présente dans une quarantaine de villes. Alors, effectivement, Welcome, c'est un programme d'accueil en famille sur lequel on va revenir un peu plus longuement. Mais l'association JRS France a plusieurs autres programmes et c'est important de le situer dans un ensemble. Il y a l'apprentissage du français avec toute la mise en place de toute une méthode et d'accueil pour l'apprentissage du français. Il y a l'accompagnement vers l'emploi et la formation. Il ne s'agit pas simplement pour JRS d'héberger et de donner un toit pendant quelques temps, mais de faciliter l'intégration dans la société française. JRS France mène aussi beaucoup d'actions de plaidoyer pour faire avancer la législation sur l'accueil des étrangers. Et puis un programme qui s'intitule JRS Jeunes et qui pourrait intéresser peut-être de jeunes auditeurs, qui est l'idée de faire des rencontres entre des jeunes d'ailleurs et des jeunes d'ici, avec le pari de la réciprocité, c'est-à-dire qu'il s'agit bien de communautés de jeunes, non pas de jeunes qui seraient bénévoles pour aider d'autres jeunes, mais de jeunes qui se rencontrent et d'une manière égalitaire organisent ensemble des rencontres, des activités, des jeux, des échanges. Voilà, donc c'est bien tout un ensemble dans lequel il y a effectivement le programme d'accueil qui s'appelle Welcome.
Allez, juste un petit mot sur Jésuites Réfugiés Service. Il y a le terme jésuite, mais j'insiste sur le fait que c'est une association totalement laïque dans son fonctionnement, que toutes les personnes qui accueillent peuvent être de n'importe quelle religion ou non-croyante. C'est pas le problème. Le problème, c'est vraiment centré sur cet accueil des demandeurs d'asile.
Tout à fait, c'est important. Et c'est effectivement ce qu'on voit dans l'Hérault. La proportion de familles accueillantes chrétiennes n'est pas si importante que cela.
Hein. Donc, on y voit plus clair sur JRS dans le monde, en France, dont Welcome est, à ma connaissance, le plus gros programme en France, en tout cas. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu comment ça s'organise dans l'Hérault ? Qu'est-ce que c'est que votre antenne ? Quel est le rôle de la coordination ?
Alors, cette antenne, elle est née en 2016. Le programme Welcome, pour le plan national, il a démarré en 2009. Mais il y a eu tout d'un coup un coup d'accélération en 2015, avec tous les réfugiés syriens qui arrivaient en France et toute l'émotion que ça a créée. Et donc, depuis 2016, ça s'est développé énormément. Dans l'Hérault, ça s'est créé à partir de 2016. Et on est actuellement 8 groupes, constitués chaque groupe d'une dizaine de familles accueillantes qui sont réparties sur l'ensemble de l'Hérault. Il y en a sur la ville de Montpellier, mais il y en a aussi tout autour. Ça va de Lunel, Moguio, Clermont-l'Hérault, Lodève, Béziers. Voilà, donc c'est surtout l'Hérault. Et donc ces groupes d'accueil, qu'on a appelé des pétales parce qu'ils sont tous finalement autour tout de même du cœur administratif que représente Montpellier et qui est un lieu ressource indispensable pour les demandeurs d'asile que l'on accueille. Ces différents groupes sont en lien les uns avec les autres au travers d'une coordination qui réunit des représentants de chacun de ces groupes et qui permet des échanges d'expériences, du soutien, des échanges. Donc cette coordination est assez importante. On le verra, c'est une des forces de ce réseau, c'est justement la solidarité aussi entre les accueillants. La solidarité pour les accueillis, mais aussi entre les accueillants, qui facilite grandement l'accueil.
Donc nous allons préciser cela dans quelques instants, mais nous vous proposons d'abord, chers auditeurs, un petit morceau de musique avec la chanson de Souchon, que nous aimons bien, Alain Souchon, « Ça me suffit ». C'est déjà ça, plus exactement. C'est déjà ça.
Je sais bien que rue de Belleville, rien n'est fait pour moi. Mais je suis dans une belle ville, c'est déjà ça. Si loin de mes antilopes, je marche tout bas. Marcher dans une ville d'Europe, c'est déjà ça. Oh, oh, oh. Et je rêve que soudain mon pays soudain se soulève. Oh, oh. Rêver c'est déjà ça, c'est déjà ça. Y'a un sac de plastique vert au bout de mon bras. Dans mon sac vert il y a de l'air, c'est déjà ça. Quand je danse en marchant dans cette djellaba, ça fait sourire les passants, c'est déjà ça. Oh oh oh. Et je rêve que soudain mon pays soudain se soulève. Oh oh. Rêver, c'est déjà ça, c'est déjà ça. C'est déjà ça.
Nous sommes donc avec les coordinateurs de l'association GRS Welcome dans l'Hérault, Sophie Kerner et Jacques Maillet. Et nous allons voir d'un peu plus près comment ça fonctionne dans notre département, notamment avec la coordination qu'ils assurent. Et actuellement, 8 groupes de familles qui accueillent donc des demandeurs d'asile qui ne sont pas logés par l'État. Sur le fonctionnement, les relations entre votre coordination, les groupes, la dynamique, les valeurs, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ?
Et sur les modalités de l'accueil, peut-être, pour
Exactement.
Commencer. Alors, finalement, quels sont les freins ? On va partir des freins. Quels sont les freins qui font que des personnes qui peuvent avoir un peu de place chez elles, avec un cœur relativement généreux et qui se disent « oui, j'ai de la place chez moi, il y a des gens qui sont dehors alors qu'il fait moins 4 et alors qu'ils devraient être accueillis par l'État », qu'est-ce qui fait que je vais hésiter, en fait, à ouvrir ma porte ? Il y a plusieurs facteurs. Il y a, d'une part, la durée. Je vais ouvrir ma porte, mais pour combien de temps ? Et puis, si finalement, ça ne se passe pas bien, qu'est-ce que je vais faire ? Je pourrais, entre guillemets, plus m'en débarrasser. Comment ça va se passer ? Je serai mal à l'aise. Il y a aussi la disponibilité d'une place dans sa maison. Pour beaucoup, il y a des gens qui ont des chambres de libre pendant un temps parce qu'ils avaient des enfants qui sont partis, mais quelquefois pendant les vacances, les enfants reviennent, donc la place n'est plus là. Il y a des personnes qui sont en déplacement professionnel par moment, qui ne pourraient pas accueillir. Donc la disponibilité n'est pas continuelle sur l'année. Et puis aussi, il y a l'inquiétude de la différence culturelle. On va accueillir quelqu'un qui vient d'une toute autre culture, qui viennent de traverser des choses très éprouvantes en général. Et moi, je vais peut-être être très maladroite vis-à-vis de cette personne qui est tellement différente de moi. Est-ce que je vais arriver à me mettre en phase ? Il y a des problèmes de langue, il y a des problèmes de culture. Tout ça, c'est compliqué. Alors, quand l'association JRS a réfléchi à ce sujet, elle a essayé, dans la méthode d'accueil, de la penser justement pour lever chacun de ces freins. Alors, le premier frein de la durée, chaque famille, dans un réseau Welcome, chaque famille, en fait, ne s'engage à accueillir le demandeur d'asile que pour une durée, dans un premier temps, de 4 semaines. C'est 4 semaines successives. Et puis après, le demandeur d'asile va passer dans une autre famille où il va passer aussi 4 semaines. Puis une autre famille où il va aussi passer 4 semaines. Et ce groupe de familles est en étroite relation. Ce qui permet que si une difficulté est rencontrée par une famille dans l'accueil d'un demandeur d'asile, elle peut s'appuyer sur le groupe pour en parler, pour demander l'avis, pour éventuellement se faire remplacer si c'est nécessaire. Et cette fonction du groupe qui permet vraiment de prendre du recul par rapport aux questions que l'on se pose, par rapport aux difficultés que l'on rencontre, c'est extrêmement précieux et toute personne qui est rentrée dans cet accueil pourra en témoigner. Le groupe est un soutien qui fait qu'on n'a plus cette inquiétude. On peut avoir des difficultés, mais on n'est pas seul pour les assumer. Donc c'est vraiment l'intelligence collective du groupe permet vraiment de vivre beaucoup mieux les situations qui peuvent être, c'est vrai, parfois difficiles. Et puis cette idée de la durée limitée est aussi quelque chose de rassurant. Je m'engage dans un premier temps pour 4 semaines. Ce sera peut-être plusieurs fois 4 semaines dans l'année, mais en tout cas, ça ne durera que 4 semaines. Donc ça, c'est un élément qui peut être rassurant. Alors, vous allez peut-être vous dire, bah oui, c'est peut-être bien rassurant pour les familles d'accueil, mais pour celui qui est accueilli, c'est quand même pas marrant de changer de lieu toutes les 4 semaines. Alors, il faut savoir d'abord que pour quelqu'un qui vient de la rue, déjà d'être dans une maison qui est chaude et confortable et accueillante, c'est quelque chose de très précieux.
Et qui est parfois passé par la Libye dans des conditions d'un confort incroyable.
Tout à fait terrifiante, ouais. Et puis aussi, c'est aussi pour ça que ça a été conçu, c'est que cet hébergement, certes, c'est un toit, mais c'est aussi un accompagnement et une aide à l'intégration dans la société française. Or, rencontrer successivement plusieurs familles avec leur diversité, puisqu'il y a des familles avec des jeunes enfants, il y a des familles avec, au contraire, des retraités, des activités professionnelles très variées, c'est une manière de, d'abord de mieux percevoir la vie en France, hein, de ne pas rester simplement entre étrangers, mais de mieux percevoir la vie en France, et de se créer un réseau social. Et ça, c'est extrêmement précieux pour la suite, parce que dans l'hypothèse favorable où les personnes obtiennent le statut de réfugié, eh bien, c'est un réseau de Français sur lesquels ils pourront s'appuyer pour chercher un logement, pour chercher un emploi, pour rencontrer d'autres personnes. Et dans l'hypothèse où ils n'ont pas la chance d'avoir ce statut de réfugié, ça peut être aussi un réseau qui les aidera à trouver d'autres solutions. Donc, pour vivre dans un pays, il faut avoir un réseau de relations. Et finalement, cette méthode d'accueil qui consiste à rencontrer beaucoup de personnes permet de se tisser ce réseau de relations.
Je dirais qu'un des autres objectifs aussi, et qui me paraît important pour la société, c'est le fait que accueillir chez soi, dans un quartier, ça permet aux voisins de voir que l'accueil, c'est possible, et que les inquiétudes que soulignait Sophie, elles peuvent exister, mais la plupart du temps, on s'aperçoit que le contact, il est facile, que l'intégration, elle se fait relativement aisément, et que finalement, une fois qu'on a franchi le pas, c'est facile d'accueillir. C'est pas quelque chose de compliqué. Donc ça, c'est un point important. L'autre élément sur lequel j'insisterai aussi, c'est que JRS ne travaille jamais tout seul. Elle est en lien, c'est une association qui est en lien avec beaucoup d'autres associations. Et notamment, par rapport à l'accueil des demandeurs d'asile, on essaye d'avoir en amont un passage à la CIMAD qui va jouer le rôle d'accompagnement juridique, puisque ça, c'est pas pris en charge dans les familles qui accueillent. Les familles, c'est vraiment un accueil au sein de la famille, la vie de tous les jours. Et en amont, donc pour accompagner dans toute la procédure d'asile qui est très compliquée, c'est la CIMAD qui va avoir un référent juridique qui va accompagner la personne. Et également, c'est un moyen de vérifier que le demandeur d'asile qui va aller dans une famille est apte à s'insérer dans une famille, parce que parfois, il y a des cas qui sont trop problématiques pour qu'on puisse proposer cet accueil en famille. Donc, il y a aussi cette vérification pour limiter les risques d'insertion dans une famille.
J'ai envie de vous poser une question brève, mais qui a deux aspects. Est-ce que votre mode de fonctionnement de Welcome dans l'Hérault en pétale, en petit groupe de famille, est le modèle général adopté dans les autres villes de France? Ça, c'est le premier aspect. Et est-ce que la relation privilégiée que Welcome dans l'Hérault a avec la CIMAD est systématique aussi dans les autres villes de France, ou est-ce que parfois le montage est d'une autre...
Alors le montage peut être très différent. Il y a certaines régions comme des grosses villes, comme Lyon, dans lesquelles c'est plus pyramidal. Toutes les familles qui souhaitent accueillir font partie d'un grand ensemble et c'est l'équipe de coordination qui décide, en fonction des disponibilités, de l'accueil du demandeur d'asile dans les différentes familles. Nous, on est parti d'une expérience différente avec des groupes qui se connaissaient, qui permettent cette convivialité dont parlait Sophie tout à l'heure et ce soutien mutuel qui est vraiment intéressant. Et qui permet cette intelligence du groupe. On a travaillé vraiment sur la subsidiarité. La coordination, elle a un rôle un petit peu de relation avec la préfecture, avec la CIMAD, avec l'OFI, donc tout un tas de partenaires essentiels dans la demande d'asile. Mais chaque groupe a la capacité d'organiser comme il le souhaite l'accueil, de proposer des activités. C'est un petit peu différent donc, de ce qui se passe dans d'autres régions. Et puis les partenaires, ils peuvent être aussi différents. Nous, on travaille aussi en lien avec le Secours catholique, on travaille en lien avec la SPADA, qui est l'organisme qui est chargé du premier accueil des demandeurs d'asile. Voilà, dans d'autres régions, ça va être d'autres partenaires. Donc il y a une assez grande liberté et possibilité d'innovation en fonction de l'organisation dans les différentes régions.
Merci Jacques. On va peut-être passer une deuxième pause musicale que nous a suggéré Sophie et qu'elle va nous présenter.
Ça s'intitule Mozart l'Égyptien. C'est une musique qui date déjà d'un certain nombre d'années et qui fait le pari du mélange des cultures, donc Mozart et l'Égypte. Et vous verrez, ça fonctionne.
La
Voilà, nous sommes toujours avec l'association Welcome dans l'Hérault, et donc avec Sophie Kerner et Jacques Maillet, les coordinateurs. En tant que famille d'accueil, je pourrais aussi témoigner du fait que, réellement, depuis 4 ou 5 ans que nous participons à cet accueil, c'est quelque chose de très riche de pouvoir rencontrer des gens qui sont de nature et de nationalité souvent très différentes. Dans notre groupe, nous avons eu un Cubain, un Colombien, un Égyptien, un Yéménite, plusieurs Africains, dont des Soudanais, Gambiens, tous ne sont pas francophones. Et ça amène réellement à vivre quelque temps avec une différence culturelle, comme on l'a rappelé au début, qui peut être monstrueuse, mais dans une tentative de compréhension et puis d'accueil de quelqu'un qui est en difficulté, sans le faire de façon intrusive, bien sûr, mais en étant à sa disposition pour plutôt répondre à ses questions, l'aider. Et comme le disait Sophie à juste titre, lui présenter également éventuellement les gens de notre quartier, des gens qui pourraient l'aider dans une activité sportive, culturelle, trouver un boulot éventuellement, des choses de cette nature. Évidemment, la question que l'on se pose tous, c'est malheureusement, vous savez tous, près des deux tiers, enfin près de 60% sont déboutés. Quid de la suite des opérations et comment Welcome se positionne par rapport à cela quand la personne quitte le réseau, quitte l'association, qu'est-ce qui se passe? Quelle est un peu notre stratégie en la matière?
Alors d'abord, on peut dire qu'il y a plusieurs raisons à ce que quelqu'un quitte le réseau. La première, c'est que l'État lui propose un hébergement, ce qui est quand même ce qui est le plus souhaitable, hein, puisque c'est l'engagement de l'État. Et ça arrive assez fréquemment. Il arrive même quelquefois qu'un demandeur d'asile, finalement, ne séjourne qu'un mois ou deux chez nous parce que l'État lui propose un logement dans un centre d'accueil pour demandeurs d'asile, CADA. L'autre raison, c'est qu'il obtienne le statut de réfugié pendant que sa procédure aboutisse, pendant que nous l'accueillons. Donc, évidemment, ce n'est pas du jour au lendemain qu'il va quitter le réseau. On va l'aider dans l'accompagnement, avec d'ailleurs d'autres associations qui sont spécialisées là-dessus, et d'ailleurs associations en contrat avec l'État, pour aider ceux qui ont obtenu leur statut et qui donc maintenant peuvent travailler et rentrer dans la vie française à plein titre, pour que leur vie démarre. Parce que ce n'est pas si facile, hein. Une fois qu'on a obtenu le statut de réfugié, tout n'est pas gagné, hein. On n'a plus du tout d'allocation à ce moment-là. On n'a pas forcément l'âge pour toucher le RSA. Et il faut trouver du boulot et un logement. Ce n'est déjà pas facile pour un jeune Français. On imagine donc ce que c'est pour un jeune étranger. La troisième raison de quitter le réseau Welcome, elle est plus compliquée à gérer pour les familles d'accueil. C'est que par principe, l'accueil dans notre réseau ne dure pas plus d'un an. Alors, pourquoi? Parce que l'idée de cet accueil n'est pas de prendre en charge complètement un demandeur d'asile et de penser qu'on va avoir les clés de sa vie, de son futur. Cet accueil, il est conçu comme un répit, une halte, un accompagnement pendant un temps pour des gens qui ont vécu des choses extrêmement violentes et difficiles. Et se retrouver à la rue en France, c'est inadmissible, vu ce qu'ils viennent de vivre. Mais l'idée n'est pas de se dire « on va pouvoir trouver des solutions à tous ces problèmes » et aussi de créer, l'idée est de créer aussi une solidarité avec les autres qui, eux, sont à la rue. Donc au bout d'un an, on estime que l'accompagnement a permis tout de même de faire un vrai répit pour ces personnes et que maintenant, ils ont à continuer leur chemin comme ils l'ont mené jusque-là, d'ailleurs avec une force bien supérieure à la nôtre. C'est toujours difficile pour les familles d'accueil d'accepter de se séparer de quelqu'un tant qu'il n'a pas terminé sa procédure, tant qu'il n'a pas de solution. Ça n'empêche pas du tout de continuer à avoir des relations de façon informelle après, et c'est d'ailleurs le cas pour la plupart des familles d'accueil. On reste en relation avec pratiquement tous ceux qu'on a accueillis et qui sont encore en France. Mais l'accueil, en tout cas, n'est pas illimité. Et ça, c'est une valeur importante dans notre accueil, qui est de dire... On n'a pas la solution, on n'est pas la solution à tous les problèmes de ceux qu'on accueille.
Vous comprenez quand même que pour les familles, c'est vraiment un moment difficile. Je me souviens, nous, d'un demandeur d'asile qui avait des problèmes de santé en fin de séjour à la maison, qui a appris le mois où il devait nous quitter qu'il était débouté et que nous avons dû remettre à la rue. Faut reconnaître que là, il y a quelque chose qui est quand même très, très dur à vivre, et pour la famille, a fortiori pour le demandeur d'asile.
Oui.
Et que on s'interroge toujours de savoir pourquoi, j'allais dire entre guillemets, cette générosité limitée de Jerez Welcome.
Oui, alors sur un individu, on peut dire qu'elle est limitée quand la personne que vous accueillez est partie, quelqu'un d'autre est venu qui se trouvait dans une situation très difficile de départ à la rue. Alors, il faut quand même dire que cette limite d'un an, elle a une certaine souplesse, hein, et que il y a beaucoup de groupes parmi nous qui ont prolongé, justement parce qu'il y avait des situations temporairement tellement difficiles qu'il n'était pas imaginable de laisser quelqu'un sortir du réseau sans aucune solution. Donc les familles essayent de chercher le plus possible de solutions à la sortie. En tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est que ça n'est pas nous qui avons les clés. Hein, ça n'est pas nous qui avons les clés. Alors, humainement, on le négocie comme on peut, avec une certaine souplesse. Il faut simplement rester dans l'esprit de cet accueil, qui est de se dire on n'est qu'une étape dans la vie de ces personnes qui ont une trajectoire qui est extrêmement compliquée. Et l'expérience montre tout de même que quand des familles se sont finalement sont parties du réseau parce qu'elles ont souhaité garder durablement la personne qu'elles accueillaient, il y a un moment où ça devient compliqué. C'est l'expérience qu'il montre. Et si l'association JRS a fixé cette idée d'un an, c'est parce que l'expérience montre qu'au bout d'un moment, c'est tout de même compliqué, y compris pour un demandeur d'asile de changer de famille tous les mois.
Et une fois de plus, on constate que si les jésuites ont mis en place ce type de règles, elles sont fondées, ces règles, sur l'expérience.
Elles sont très expérimentales. Oui, hein. Oui. Au départ, ce n'était pas du tout ça, oui. les temps ni d'accueil, voilà. Ni de durée d'accueil. Et c'est l'expérience qui fait bouger. Oui. Et on se rend compte, quand on voit quand on va à des rencontres nationales, que tout le temps, les règles actuelles sont remises en cause par rapport à... repensées, en tout cas, par rapport au contexte qui évolue.
Oui, ça garde une grande souplesse, quand même. Ah, et oui. Donc, par rapport à ce que tu disais, Philippe, je pense qu'il y a un véritable souci, quand même, de tenir compte du cas particulier auquel on est confronté, de chacun, et d'essayer, effectivement, de trouver des solutions, même si c'est parfois extrêmement compliqué.
Je pense qu'on aurait pu poursuivre longuement, mais certaines de nos auditrices et certains de nos auditeurs sont peut-être intéressés de savoir comment peut-on rejoindre votre association.
Alors c'est facile, il faut prendre contact avec nous. Et le plus simple à indiquer comme ça à la radio, c'est que vous alliez sur le site de JRS, donc comme Jésuites Réfugiés Service, jrs.org. Et vous trouverez dans ce site qui est national, vous trouverez la liste des antennes locales. Vous allez sur l'antenne de l'Hérault et vous trouverez un numéro de téléphone qui vous permet de nous contacter, ainsi qu'une adresse mail. Et vous serez les bienvenus.
On a besoin de famille.
Merci beaucoup, Sophie et Jacques, de nous avoir partagé vos expériences de l'accueil à travers cette association JRS Welcome dans l'Hérault, très active, très dynamique et très vivante. Je peux en témoigner puisque j'en fais partie. Il me reste simplement à vous faire une brève annonce de la part de l'association France-Palestine Solidarité, qui fait partie de la Maison des Tiers-Mondes et de la Solidarité Internationale. Il s'agit d'un film, de la projection du film Wajib, qui est un film d'Anne-Marie Jassir, qui sera projeté au Centre Rabelais, que tout le monde connaît, sur l'esplanade de Montpellier, le vendredi 28 janvier à 20h. Cette projection se fait en liaison avec le Festival chrétien du cinéma. Donc vendredi 28 janvier à 20h, un film palestinien qui certainement vous intéressera beaucoup. Merci à tous et à lundi prochain.